Banco Pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, comme tous les matins, nous lancerons un débat. Et ce matin, nous parlerons de l'accord de paix signé vendredi dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le tout sous l'égide des États-Unis, de l'Union africaine à l'ONU, en passant par de nombreux chefs d'État, dont évidemment Donald Trump. Les réactions saluent la portée historique de cet accord. Encore faut-il évidemment qu'il soit respecté. Je vous rappelle que ces trois dernières décennies, de multiples accords et cessez-le-feu ont été conclus. Ils ont toujours été violés. L'accord de Washington sera-t-il le bon? Permettra-t-il de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC? En tout cas, au sein de la classe politique congolaise, vous l'avez entendu sur notre antenne, le document suscite à la fois espoir et scepticisme. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Appelez-nous, exprimez-vous, dites-nous quels sont les points forts et les faiblesses de cet accord. 33 9 693 693 70 et je vous attends également sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Je lirai quelques-uns de vos commentaires évidemment pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec plusieurs questions justement sur cet accord de paix. Bonjour Achille Omar.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toute la régie.
Merci de nous appeler de Lubumbashi, en RDC. Quelles sont vos questions, Achille Omar?
Oui, Juan, Kigali et Kinshasa ont signé un accord de paix le 27 juin à Washington. Mm-hmm. À quand peut-on espérer les retraits effectifs des FDLR?
Les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe armé rwandais, je vous le rappelle, qui après le génocide de 94 a fui le Rwanda et s'est installé à l'est, à l'époque du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. On va essayer avec vous évidemment de décortiquer cet accord qui cite nommément les FDLR, puisque le Rwanda assure que ces rebelles sur le territoire congolais constitue une menace, une véritable menace pour sa sécurité. L'accord prévoit donc le désarmement de ce groupe. À quand donc la neutralisation des FDLR?
Justement, c'est les termes neutralisation. C'est ce qui est mentionné dans l'accord. Il y a donc un plan à quatre étapes pour neutraliser ces FDLR. La première étape, c'est la mise en place du mécanisme conjoint de coordination de sécurité entre la RDC et les Rwanda. Ce mécanisme doit être opérationnel avant le 27 juillet. Ensuite, sur le terrain, les actions doivent s'enchaîner rapidement. Il y a une phase de préparation qui va durer 15 jours pour localiser ces FDLR, partager les renseignements entre la RDC et le Rwanda, puis une phase opérationnelle. Mais c'est une phase qui va durer 3 mois. Mmh. Et c'est là que les forces armées de la RDC et les forces rwandaises doivent agir. Neutralisation des FDLR d'un côté, lever des mesures dites défensives du Rwanda de l'autre. Un délai global de 90 jours maximum est prévu pour cette opération. Une opération conjointe FRDC-RDF, donc l'armée rwandaise, n'est pas exclue, mais elle devra être décidé conjointement entre les deux armées.
Et je rappelle que la neutralisation des FDLR est un préalable pour le Rwanda. Les FDLR, Patient Ligaudi, n'ont pas été impliqués dans les discussions.
Non, pas impliqués parce que pour le Rwanda, c'est un groupe génocidaire, donc il n'y a pas de discussion possible entre le gouvernement rwandais et les FDLR.
Ont-ils réagi malgré tout à cet accord conclu vendredi dernier?
Non, il n'y a pas de réaction jusque-là, mais ce qu'on sait, c'est que déjà fin de l'année passée, il y avait une demande qui avait été faite au médiateur de l'époque, donc l'Angola, pour ouvrir des discussions directes entre les FDLR et le gouvernement rwandais. Et il n'y a pas eu de réponse là-dessus.
On va redonner la parole dans un instant à Achille Omar. Il a une autre question à vous poser, mais je vais aller un peu plus loin que la question d'Achille Omar. Une question qui m'intéresse et qui intéresse évidemment les auditeurs. Ça donnera l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le débat. Une fois neutralisé, Que deviendront les FDLR ?
Neutraliser, ça veut dire qu'il n'y a plus de FDLR. Mais on a deux, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il y a des combattants qui doivent soit se rendre, soit être neutralisés. C'est les termes militaires pour dire qu'ils vont être tués parce qu'il va y avoir de combat.
D'accord.
Seulement, il y a un problème, c'est qu'il y a des FDLR tant dans la partie contrôlée par l'AFCM 23, tant dans la partie encore sous le contrôle du gouvernement, d'où la complexité de cette opération qui doit être menée, parce que d'un côté, le gouvernement rwandais accuse ces FDLR d'être incorporés dans l'armée congolaise et même d'être confondus avec les Wazalendo. De l'autre, on se retrouve dans une situation où, particulièrement dans le Nord Kivu, il y a certains affrontements, certaines confrontations entre des groupes résiduels des FDLR et l'AFCM 23.
On repasse au standard à Chilomar. Votre deuxième question.
Oui, Juan, la seconde question, elle est de savoir qu'est-ce qui est prévu pour des milliers de Congolais victimes de ce conflit.
Passion Ligaudi.
Alors ça, c'est une belle question. On remarque que la place qu'il aurait réservée dans cet accord est périphérique. Elles sont mentionnées en tant que population déplacée ou réfugiée, que les deux États s'engagent à rapatrier de manière volontaire, sûre et digne. L'accord parle aussi de la protection des civils, de l'accès humanitaire sans entrave. Mais attention, il n'y a pas de mécanisme prévu pour la justice, ni pour la réparation. Rien sur l'indemnisation, rien sur une éventuelle commission vérité, rien non plus sur un accompagnement psychosocial ou un processus de réconciliation. Les victimes ne sont donc pas reconnues comme partie prenante au processus de paix. C'est clairement un chantier à ouvrir et des voix comme celle de Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, ou même le président Félix Tshisekedi le 30 juin l'a rappelé dans son discours. Il faut absolument qu'on ait une place pour les victimes. Il faudra aller plus loin sur ces terrains. Encore d'hier, Amnesty International, dans un communiqué sur justement les victimes.
Ouais, vous ne disiez pas de justice. Effectivement, plusieurs sont les auditeurs à nous dire sur nos réseaux sociaux « pas de paix sans justice ». On repasse au standard. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes à Doubreka, c'est en Guinée.
Bien évidemment, oui Juan.
On vous écoute.
Alors, quels mécanismes sont prévus pour s'assurer que l'accord sera respecté, M. Rouen ?
Alors, qu'est-il prévu, Passion Ligaudi, pour s'assurer de la bonne application de cet accord de paix ?
Alors, il y a deux dispositifs. Alors, pour le respect de l'accord, les deux parties ont mis en place deux garde-fous. Il y a le mécanisme conjoint des coordinations, mais aussi un comité de surveillance conjointe. Ces comités aura pour mission de recevoir les plaintes, surveiller les violations et proposer des solutions. Il peut même mettre en place des mécanismes ad hoc, si besoin. C'est un dispositif diplomatique assez robuste sur le papier, mais encore faut-il qu'il fonctionne sur le fait. Là, sur les deux derniers jours, les gouvernements congolais ainsi que le gouvernement rwandais parlaient déjà de la composition, on va dire, des membres de ces comités de suivi. Trois du côté du Congo, trois du côté du Rwanda, qui doivent se réunir tant au Congo qu'au Rwanda.
À préciser que le texte ne prévoit, et là je parle sous votre contrôle, puisque vous l'avez scruté, lu et relu, cet accord de paix, Passion Ligaudi, l'accord ne prévoit aucune sanction contre la partie qui ne respectera pas le document ?
Aucune sanction jusque-là, mais il faut dire que ce n'est qu'un accord et qu'il va y avoir plusieurs autres accords qui vont suivre. L'ensemble de ces accords vont s'appeler, l'ensemble va s'appeler ce qu'on appelle donc les accords de Washington, qui prévoient la partie économique, la partie paix, la partie régionale, et ces accords-là vont être signés ensemble au courant de ce mois de juillet aux États-Unis sous le leadership de Donald Trump.
Oui, on parlait de Donald Trump, on parlait de cette absence de sanctions écrite noir sur blanc. Il y a eu les propos de Donald Trump, je les ai sous les yeux. Celui qui va essayer de violer cet accord rencontrera les États-Unis sur son chemin. Il y aura des conséquences, a prévenu le président américain vendredi dernier lorsqu'il répondait à des questions de journalistes.
Seulement, ça, c'est des propos, c'est des paroles. On
exactement.
Sait que dans ce contexte-là, il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus dans le contexte congolais et rwandais, mais il n'y a toujours pas eu de suivi tant les mécanismes ne sont pas prêts.
Ibrahima, une dernière question.
Oui, pourquoi les rebelles du M23 ne sont pas mentionnés dans cet accord ?
Alors, c'est une bonne question, effectivement, et je comprends que les auditeurs qui ne soient pas forcément au Congo, se posent cette question. Le M23, aujourd'hui, on peut dire, c'est le principal acteur de l'insécurité dans l'est du pays.
C'était la grande bataille de la partie congolaise d'insérer le M23 dans cet accord, parce que pour Kinshasa, pour le président Tshisekedi, le M23 n'existe pas. Ce qui existe, c'est une agression rwandaise. Mais ça, ça a été balayé d'un revers de la main par la délégation rwandaise, et la délégation rwandaise a pu obtenir qu'on ait dans cet accord l'absence donc du M23, et de considérer qu'il doit y avoir un processus parallèle qui s'appelle le processus de Doha. Et c'est là où on retrouve le gouvernement congolais face à face avec la délégation de l'AFC-M23. Mais on rappelle que c'est un processus qui a commencé il y a plusieurs mois maintenant, et qui, ensemble avec le processus de Washington, va composer un tout.
Alors justement, vous parliez de ces discussions, de ces négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 au Qatar. Bonjour Moïse.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à toute l'équipe de La Paix sur l'actualité.
Merci de nous écouter à Kinshasa. Quelle est votre question ? On vous écoute avec Passion Ligodi.
Oui, ma question est la suivante. Où en sont les négociations de Doha ?
Alors, où en sommes-nous ? Voilà, une bonne question.
Question intéressante. Les deux délégations sont rentrées dans leurs bases respectives, donc elles ne sont plus à Doha. On parlait la semaine dernière d'un langage des sourds, selon une source proche des discussions. Un premier projet d'accord avait été présenté par les médiateurs, mais une contre-proposition a bloqué l'évolution de pourparlers. Il y a un profond désaccord donc, sur les priorités et la méthode à adopter. Le M23 veut d'abord que des mesures de confiance puissent être installées, ensuite un cessez les feux, puis un accord global. Kinshasa, de son côté, exige le désengagement immédiat, le cantonnement du M23 et le rétablissement de l'autorité de l'État avant de passer à l'étape suivante. C'est donc un blocage, mais le Qatar veut être mobilisé. Le Qatar est toujours en contact avec les deux parties et dans les prochains jours, les choses pourront bouger. Avant de monter sur ces studios, j'avais des discussions avec toutes les parties. On me disait qu'il y avait une grosse pression des États-Unis d'Amérique pour que dès cette semaine, l'on puisse répondre les discussions.
On suivra ça notamment avec vous, l'ensemble du service Afrique du RFI. Merci infiniment, Patient Ligodi, d'être venu répondre à quelques-unes des questions que nous avons reçues, les questions les plus représentatives envoyées sur nos réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. À très vite, Patient Ligodi.
À très bientôt.
Merci de nous suivre en images, en vidéo, en direct sur la chaîne YouTube de RFI. J'ai sous les yeux le message d'Aboubacar qui nous dit bonjour depuis Bamako. Adjeti Kofi nous dit bonjour à tous, Rodolphe depuis Lomé. Donc voilà, merci, continuez à nous écouter à la radio et à nous suivre également donc en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Il est 10h22 à Paris, 8h22 en temps universel. D'autres questions à la rédaction. Bonjour Adamou.
Bonjour Juan Gomez.
Au Cameroun. C'est bien ça, vous êtes à Douala?
Oui, je suis à Douala.
Voilà, j'ai eu peur tout d'un coup que la liaison eût été interrompue. Adamou, vous avez des questions sur les déboires judiciaires du Premier ministre israélien?
Oui, bien sûr.
Allez-y.
Le tribunal de Jérusalem a accepté de reporter les audiences de Netanyahou dans son procès pour corruption. Donald Trump a déclaré qu'il ne tolérait pas la poursuite des procès. Doit-on comprendre que cette décision a été influencée par le président américain? Sinon, quelles sont les raisons qui justifient ces reports?
Oui, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que Donald Trump a appelé à annuler le procès contre le Premier ministre israélien, procès qu'il qualifie d'ailleurs de chasse aux sorcières. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Juan et bonjour Adamou.
Correspondant de RFI à Jérusalem, merci d'être en direct avec nous. Benjamin Netanyahou était attendu à la barre, notamment ce mercredi, pour répondre des accusations de corruption qui le visent. Il est poursuivi, je le rappelle, dans 3 affaires de corruption. Michel Paul, le tribunal de Jérusalem a donc accepté dimanche de reporter ses auditions. Rappelez-nous d'abord, dans quelles circonstances cette décision a été prise ?
Bien, c'était une audience extraordinaire du tribunal de district de Jérusalem à huis clos, et aux côtés du premier ministre israélien se trouvait le chef du Mossad et le commandant des renseignements militaires. L'objectif pour Benjamin Netanyahou et son avocat, c'était d'obtenir le report des prochaines audiences. Initialement, Netanyahou avait demandé de sursoir à son témoignage pour une période de 2 semaines pour raisons diplomatiques et de sécurité nationale à la suite de la guerre entre Israël et l'Iran. Une requête qui a été rejetée à 2 reprises par la Cour, mais finalement, le tribunal s'est incliné et il dispense le Premier ministre israélien de comparaître cette semaine, en tout 2 audiences. Les juges ont indiqué que les explications fournie contenait une argumentation supplémentaire substantielle par rapport à celle fournie précédemment. Mais on peut imaginer que la semaine prochaine, on insistera à la même procédure. Il est clair que Netanyahou souhaite une issue à son procès.
Oui, en tout cas, cette décision de la justice du tribunal de Jérusalem intervient alors que le président américain, comme le rappelait notre auditeur, a par deux fois pris fait et cause pour Benjamin Netanyahou.
Oui, avec des expressions très fortes comme « laisser partir Bibi », il a un gros travail à faire, écrit notamment Donald Trump sur son réseau social. Il ajoute qu'il ne tolérera pas la poursuite du procès pour corruption du Premier ministre israélien. Et Netanyahou a remercié le chef de la Maison-Blanche pour ses interventions.
Ouais, et quand Donald Trump affirme que Benjamin Netanyahou a un gros travail à faire, il a ajouté dans la foulée « Il est en train de négocier un accord avec le Hamas. Comment est-il possible que le Premier ministre d'Israël puisse être contraint de rester dans une salle d'audience toute la journée ?» Voilà donc les propos de Donald Trump. Michel Paul, à Jérusalem, quelle est la réaction de la classe politique aux propos du président américain ?
Bien, écoutez, l'opposition israélienne a qualifié ces interventions du président américain de scandaleuses. Et même au sein de la coalition gouvernementale, des voix se sont élevées pour dire qu'il est impensable que le président américain s'immisce dans les affaires internes d'Israël. Ce qui est encore plus fort quand il ressort du système judiciaire. Un des scénarios qui est évoqué par les médias ici en Israël se déroulerait en plusieurs phases. D'abord, la fin de la guerre à Gaza. Cela pourrait se faire très vite avec le retour des otages, et ensuite des initiatives régionales avec des rapprochements entre Israël et plusieurs pays, la Syrie, le Liban, l'Arabie Saoudite, élargissement, en d'autres termes, des accords d'Abraham, et en fin de compte aussi la fin du procès de Netanyahou. Ça ferait partie donc de cet accord tripartite. Mmh. Nombreux sont ceux en Israël qui voudraient en terminer avec cette saga. Le président israélien Herzog examine une possible amnistie de Netanyahou. Un ancien président de la Cour suprême propose, lui, un deal entre l'accusation et la défense, comme le permet la loi israélienne. Mais dans tous les cas de figure, cela devrait être accompagné par le retrait de Benjamin Netanyahou de la vie politique. Et il n'en a pas le moins du monde l'attention.
Merci infiniment, Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. On vous libère, vous êtes en plein reportage. Adamou, je vous souhaite une bonne journée à Douala, au Cameroun. Il nous reste 3 minutes, le temps de prendre un dernier auditeur ce matin. Bonjour Abdelaziz.
Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Vous êtes au Bénin et vous avez des questions sur le Niger.
Tout à fait. J'ai vu qu'au Niger, il a eu plusieurs mutineries dans des camps militaires différents. Ma question, quelles sont les revendications des soldats ?
Ah, pourquoi les soldats ont refusé d'obéir aux ordres ? Que revendiquent-ils ? Effectivement, bonne question. Bonjour Sédi Kaba.
Oui. Je vous entends.
Nous aussi, on vous entend. Soyez le bienvenu. Merci de prendre un instant pour répondre à Abdelaziz. Vous êtes le président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Vous avez notamment publié aux éditions L'Harmattan « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger ». Que s'est-il passé la semaine dernière à Filinge et Terra ?
Oui, il est exact qu'il y a eu jusqu'à 4 mutineries militaires ces derniers temps, dont les dernières que vous venez d'évoquer, à Tillaberi et Terra, où les soldats ont refusé de prendre service et pour certains ont refusé d'aller sur le terrain combattre. Leur revendication principale sort d'ordre matériel. Le paiement de salaire à terme échu parce qu'il y a des retards dans l'arrivée des salaires et l'approvisionnement plus régulier puisqu'il y a souvent des ruptures d'intendance qui font qu'ils ne sont pas suffisamment approvisionnés. Et puis, une revendication importante, à mon avis, c'est la qualité du matériel avec lequel ils combattent. Ils exigent de matériel adapté aux défis qui se posent à eux, puisqu'on sait que les groupes armés sont devenus de plus en plus redoutables avec des matériels. Donc, les militaires exigent avant d'aller au combat ce type de matériel. Ce sont principalement des revendications d'ordre matériel, mais oui, qui reste pour l'instant contenu au niveau des 4 casernes du pays.
4 casernes pour l'instant, des soldats en colère qui dénoncent donc la dégradation de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. Vous qui connaissez bien Sédi Kaba, vous qui connaissez bien le Niger en 20 secondes, est-ce que cette colère risque de faire tache d'huile ?
Non, à mon avis non, parce que le pouvoir va rapidement prendre des dispositions pour satisfaire des conditions, des revendications qui sont matérielles. Tant qu'elles ne sont pas politiques, je crois que le pouvoir va se précipiter pour répondre à ces conditions. Et la manière d'y répondre, puisqu'il a choisi la manière douce, personne n'a été sanctionné. Mmh. Il y a une approche, je crois que le pouvoir mesure les enjeux et il va y répondre très vite, bon, pour éviter justement que ça fasse tache d'huile, parce
merci
que ça
infiniment
peut basculer sa stabilité.
Merci.